était Edith Nylon, Cinémascope. Et à propos de Cinémascope, cette semaine, comme chaque semaine depuis 3 semaines, Eponina Zelma est allée au cinéma et elle a vu À nos amours de Piala. Eponina Zelma a décidé de critiquer le cinéma d'un point de vue résolument idéologique. Et cette semaine, je fais chou blanc. Parce que non seulement le film de Piala m'a plu, mais en plus, on ne peut pas lui reprocher grand-chose par rapport à l'idéologie. Le thème, cependant, n'est pas original. Aujourd'hui, où l'on mange de la soupe adolescente à tous les repas. La boum de Pinotto à la télé pendant les vacances de Noël, c'était le réel événement de cette fin d'année. Et c'est pourtant le plus charmant colossal navet que ce marchand de soupe de Pinotto ait pondu. Ça faisait quand même un mois que tous les mômes en parlaient. La prime jeunesse se vend bien en ce moment. Faut croire qu'elle intéresse les vieux puisque c'est eux qui achètent. Dans le film de Piala, À nos amours, les vieux du reste sont représentés habiles à leur juste place. Le second rôle important après l'adolescente de 15 ans, c'est celui de son père, joué par Piala lui-même. Logique. Il est pas bête, Piala. Son film, c'est 3 fois rien si on le raconte tel quel. C'est l'histoire d'une gamine dans une famille de petits bourgeois parisiens juifs, je pense, puisque le père est polonais et en plus il est fourreur, qui s'envoie en l'air avec un maximum de petits mecs. Elle fait une fin rapide avec un jeune homme bien qui l'épouse. Il faut bien se caser quand on est une fille qui, en plus, manifeste un penchant trop net pour la liberté. Mais, rebondissement, ça ne se finit pas là, puisque la gamine, une fois mariée, se tire aux States avec un ami de la famille, celui qui a un grand nez, comme dit son père, pour le situer. Le père de la gamine. Il a le verbe avare et pertinent, Piala, dans le rôle du père. Circonspect, mais frappant. L'œil éteint, mais la présence indéniablement prenante. Un sexagénaire séduisant, posé là comme une balise indispensable. Sa fille ne lui résiste pas parce que, ce qu'on comprend malgré tout dans ce film, c'est que la fille est amoureuse du père. Elle a des rapports extrêmement conflictuels avec sa mère. Ce n'est pas dit simplement parce que les films de Piala ne sont pas simplistes, mais dans le temps du film, elles se haïssent. Elle s'envoie en l'air, la gamine, avec une chier de mec, mais elle constate invariablement que ce n'est pas le mec, le grand amour, etc., etc. Ça pourrait vouloir dire qu'il n'existe pas, mais ça serait trop banal. Je mise plutôt sur la bonne grosse ficelle psychanalytique et c'est du papa impossible que la petite est confusément et irrémédiablement amoureuse. Ça marche toujours, ces histoires. C'est une valeur aussi sûre que la Sacrada Familia. Bon, c'est un fait, À nos amours de Piala ne nous sert pas d'innovation spectaculaire. Il trafique avec des ficelles grossières, père-mère, adolescence qui se cherche. Mais si ces ficelles ne se démodent pas, c'est peut-être qu'elles sont toujours d'actualité fondamentalement. Avec quelques variantes, le film de Piala ne manque pas de rendre compte de l'évolution des mœurs. Et cette petite ne fait aucune histoire pour coucher à bras raccourcis. Mais rien n'est simple dans cette histoire banale. Aucun personnage. Même pas le père, ce héros au regard si doux, puisque sans explication, il se comporte comme un salaud et quitte femme et enfant pour aller vivre sa vie. Ce qui n'est plus de son âge, et pourtant, c'est loin d'être un salaud, ce père. La mère, hystérique d'avoir perdu son mari, se venge sur sa fille et lui reproche son manque de vertu. La fille couche de plus belle et hait sa mère. Le grand frère, qui assume fatalement le rôle de chef de famille, tiraillé entre la torture de la mère et celle de la fille, bat sa sœur pour qu'elle soit sage. Tout ça est d'un classique à pleurer, mais le traitement du thème n'est pas classique. Aucun manichéisme ne vient rendre absurde ces histoires de famille. C'est du tout vrai. Personne n'est ni bon ni méchant, personne n'est ni bon ni laid non plus. La gamine est loin d'être une déesse, elle est ronde et dorée et elle choisit ses mecs avec l'impudence qu'ont les mecs, justement, d'ordinaire. La mère est un peu folle, mais elle ne manque ni de sensibilité ni de discernement. Le frère tape, mais il est gros et mou, c'est un poète et ce n'est pas un tapeur de vocation. Le père s'en va, mais ce n'est pas un lâche. Il est irrésistible. À ce propos, on ne peut pas manquer de remarquer que Piala s'est taillé la part du lion en s'arrogeant ce rôle de père quand même un tout petit peu plus sympathique que tout le monde. Tout le monde, oui, justement, est inextricablement englué dans le consensus social dans cette histoire et personne n'est jamais ni tout à fait libre ni tout à fait innocent. C'est tourné à la mode vidéo, l'addiction frise le débit monocorde à la Bresson. Parfois. C'est du cinéma qui sent son cinéma vérité. il y a quelques accents romères en moins verbeux. C'est ni con ni génial, mais ça redonne quand même une santé au cinéma français plutôt consternant ces derniers temps. Juste un mot pour la fine bouche, pourquoi les films réalistes sont-ils toujours filmés sur le mode mineur? Pourquoi le quotidien devrait-il toujours sonner tristouné? Pourquoi le réalisme ne serait-il pas à l'image de la réalité précisément, et donc parfois absurdement allègre? C'était Mgo Ma Ngogo d'Eli Martimba. Sur Radio Zone, ce soir, c'est la pleine lune, 101,4 MHz, 2001-93-023 depuis la Suisse. L'émission de ce soir porte un titre fort vague, Les femmes et le cinéma. À partir de ça, on peut vous concocter n'importe quel menu. Le menu historique, par exemple. Femme cinéaste depuis Alice Guy, qui réalisa en 1896 sa Fée aux choux, et qui se trouve être, donc, le premier réalisateur de l'histoire du cinéma. Je dis bien réalisateur, et je parle donc au masculin universel, car si je disais réalisatrice, on comprendrait la première femme à avoir réalisé des films. Or, elle était, en toute simplicité, après l'inventeur Louis Lumière, la première personne au monde à réaliser des films. La première personne au monde à réaliser des films. Mais j'ai renoncé au menu historique. On ne fera donc pas d'inventaire. On ne fera pas non plus de commentaires exhaustifs sur les images de femmes au cinéma. À ce propos, il y a un film de Jean Eustache dont le titre résume les trois quarts de ces images. Ce titre, c'est « La maman et la putain ». Pas de menu historique, ni de menu hystérique. Alors, si Pince-mi et Pince-moi sont à l'eau, qu'est-ce qui reste ?
Ça descend d'une limousine en étole de vison blanc. Autour la foule en délire fait comme un bruit d'océan.
Hollywood.
Ça marche comme sur un nuage et ça traîne des arcs-en-ciel. Des parfums dans son sillage, des rêves d'or et de miel.
Hollywood, boulevard, Hollywood.
Où vont les stars? Où vont les Ça porte des robes en lamé, ça collectionne les scandales. Ça boit dans son soulier, ça danse pieds nus sur les tables.
Hollywood, boulevard, Hollywood.
Ça s'envole incognito pour se marier à l'improviste. Aux environs de Reno, devant 300 journalistes.
Hollywood, boulevard, Hollywood. sur Hollywood.
Mama Béa avec Où vont les stars? Mais non, on va pas parler des stars. Même pas des stars. L'émission de ce soir se propose de faire barjaquer des femmes, dont moi, sur le thème du cinéma. Pourquoi pas? Ce sera donc une émission empirique et vlan. L'émission de ce soir se propose de poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui vous prend, madame, de faire du cinéma? Ou bien, qu'est-ce qui vous prend, madame, de vouloir faire du cinéma? Ou encore, qu'est-ce qui vous prend de ne pas en faire? C'est une question déconcertante, donc parfaitement utile. Alors ce soir, sur Radio Pleine Lune, et puisque c'est la pleine lune, on se fait une émission aux petits oignons, un ciné-bavardage.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvère, et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, 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 belle comme l'amour, blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément, des mains se cherchent, des mains se trouvent timidement. Belle, 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 la revoilà, et dans la salle plus d'un cœur bat. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas pas loin de Saint-Cucufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cowboys sans foi ni loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar, 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 Gary Cooper s'approche du ravin d'enfer. Fais attention pauvre crétin, car Alan Ladd n'est pas très loin. À 500 mètres il loge une balle dans un croûton de pain. Gar, 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 pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu si Gary sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté 1 an et on a eu beaucoup d'enfants.
C'est le même coup qui m'est arrivé. Quand j'étais petite, j'allais au cinémoche et je trouvais que c'était nettement plus épatant que n'importe quoi. Christiane Colla, cinéaste genevoise, n'est pas de cet avis.
Bien, alors Christiane Colla, cinéaste, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est pratique parce que ça dit pas si on est un homme ou une femme, mais ça n'a pas grande importance finalement.
Alors Christiane, ça dit quand même femme.
Oui, d'accord, mais cinéaste, c'est pas probant. comment je suis arrivée au cinéma ? Eh bien, c'était contrairement, je ne vais pas vous raconter comme... d'abord, on se tutoie, hein.
Ouais,
oui, parce que Radio Zone, c'est plutôt relax, c'est cool.
C'est Radio Pleine Lune.
C'est Radio Pleine Lune, d'accord. Alors, comment je suis arrivée au cinéma ? Je ne suis pas du tout une fanatique du cinéma. Je ne suis pas fascinée par le cinéma. Je ne vais pas dire, comme l'ont dit pas mal de grands cinéastes, que dès l'âge de 12 ans, je me glissais dans les salles obscures pour aller voir des films, que j'étais un rat de cinémathèque. D'abord, à Genève, il n'y a pas de cinémathèque. Enfin, on a quand même l'occasion de voir pas mal de films. Non, pas du tout. J'ai vu des films dans une proportion normale et j'ai plutôt eu envie de faire du cinéma justement parce que je ne trouvais pas très souvent dans les films que je voyais ce que j'avais envie d'y voir. Alors, c'est plutôt par une... C'est plutôt par une sorte d'insatisfaction de ce que je voyais à l'écran que j'ai eu envie de démarrer pour exprimer des choses qui m'étaient personnelles. Dans mon cheminement, j'ai d'abord commencé par la photo, en fait, puisque j'ai pris des photos, j'ai fait des expositions. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que mes photos ne me suffisaient pas, que j'avais envie de raconter des histoires avec des images. Et tout s'est enchaîné extrêmement progressivement. Les deux premiers films que j'ai réalisés, c'est-à-dire Chateaubriand est-il mort et Marche, ont été en fait des adaptations d'ouvrages existants. D'une part, bien sûr, Chateaubriand, d'autre part, Charles Mouchet. C'était peut-être un tremplin à l'imaginaire pour moi. J'ai une formation de lettres. Je pense que ça m'a influencé au début dans ma manière d'exprimer les choses au cinéma. Et puis, ça m'a aidé peut-être par la suite pour la rédaction des scénarios quand même. Qui est une phase importante de notre travail. Alors, le premier film, je l'ai réalisé à l'université, aidé par les activités culturelles. C'est-à-dire qu'au cours d'un séminaire avec le professeur Starobinski, j'ai fait une explication de texte d'un passage des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Et j'ai analysé ce passage en disant que c'était extrêmement visuel et quasiment cinématographique. Et puis, Jean Starobinski m'a dit « Vous qui faites de la photo, pourquoi n'en feriez-vous pas un film ?» Et en effet, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un film ?
Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst. Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei dir? Laterne stehen mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem tiefen Raume, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene. Mit dir, Lili Marlene. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene.
C'est vrai. Pourquoi ne pas faire un film? Pourquoi ne pas faire des films? N'empêche qu'on se demande un peu pourquoi des adultes, parfois très sérieux, se mettent à brader des millions, millions qui, je vous le rappelle, pourraient servir à construire des ponts au cœur des petits pains, et à déplacer des montagnes pour imiter la réalité pendant une heure et demie. Pourquoi, avec des airs très graves, ces grands enfants de cinéastes tiennent-ils tellement à faire semblant? Christiane Colas a réalisé plusieurs films en 16 mm et qui ont parfois coûté fort cher. Je lui ai demandé si le jeu en valait la chandelle.
Alors, Christiane Colas, tu venais juste de dénoncer un de ces chiffres astronomiques qu'on ne peut pas manquer de citer quand on parle de cinéma. Le chiffre était de 1 million, combien ?
1 million 3.
1 million 3.
Alors ça, c'est qu'on a dépassé le million, c'est déjà astronomique.
Ça, c'est la prochaine production de Christiane, si elle se réalise. C'est 1 million 3 pour Images gelées. Alors, 1 million 3, ça commence à chiffrer. Et pourtant, c'est monnaie courante au cinéma. Pour une
production de 35 mm de... C'est un film pas cher, 1 million 3. Moi, au départ, j'avais pas du tout envie qu'il coûte 1,3 million. D'ailleurs, il faut qu'on revoie le budget, qu'on revoie le scénario. Psychologiquement, j'avais envie de faire un premier long métrage qui coûte moins d'un million. J'avais rêvé d'un budget à 800 000 parce que, je sais pas, il y a quelque chose de psychologique. Passer au stade du million, ça me paraît extrêmement lourd. Mais c'est vrai que ça a été l'escalade des prix dans les films que j'ai fait. Donc, Chateaubriand est-il mort a coûté 4 000 francs. Ensuite, Marche a coûté 12 000. Kärtcherä, 20 000, mais bon, là, les techniciens, les comédiens ne voulaient pas de salaire. Donc, en réalité, c'est un film qui aurait coûté 40 000 ou 50 000 francs si on l'avait fait dans des conditions normales, sans spécial copinage. Et Voyage jusqu'à l'aube, c'était déjà plus important dans la mesure où ça coûtait 100 000 francs pour 14 minutes, donc un court-métrage. Alors là, oui, stade suivant... 1,3 million, c'est un chiffre qui est frais, mais qui est normal. Au début, j'ai eu un peu de problème avec ce rapport à l'argent. Mm-hmm. Oui.
Tu viens de dire que c'est un chiffre normal. Alors, on pourrait parler d'une production suisse récente, et puis si tu en connais le coût, tu pourrais...
J'en connais pas le coût exact, je voudrais pas m'avancer, mais disons que je pense que les derniers films de... Tanner, à part dans la ville blanche, ça tournait autour d'un million cinq. Les derniers Goretta ont dû être autour de 2 millions. Les Godard chiffraient à 4 millions minimum, pour avoir un ordre de grandeur.
Passion, 4 millions ?
Oui. En tout cas, 3. En tout cas, 3. Mais bon, il faudrait vérifier ça. Je ne voudrais même pas qu'on diffuse sur les antennes fausses informations venant de moi.
De toute façon, c'est dans ces eaux-là. Juste pour donner.
Oui, c'est pour avoir un ordre de grandeur. Disons qu'on sait que Marguerite Duras fait des films avec des budgets extrêmement restreints. Ce sont des films assez simples, avec de grands plans séquences. Disons qu'un film très dépouillé, très simple, coûte en général entre 600 et 800 000.
Francs suisses.
Et puis alors vraiment les films bricolés avec des équipes techniques pas payées ou très peu payées, on arrive à faire des films avec 400 000 francs. Mais c'est extrêmement difficile de savoir parce que chacun a ses... Je veux dire, il faut voir comment les choses sont chiffrées. Il y a des gens qui ont du matériel à eux, qui ne comptent pas dans le budget. Disons, en faisant un budget d'1,3 million pour un long métrage, ce sont les prix normaux où on compte que tout sera payé. Il peut arriver ensuite que les voitures soient prêtées par une certaine marque, que des comédiens renoncent à un salaire élevé et ainsi de suite.
Tout ça pour représenter la réalité, pour jouer à,
oui.
Jouer à imaginer une sorte de réalité qui ressemble à la réalité.
Au début, ça m'a posé un problème moral. Quand on a budgété avec un directeur de production Voyage jusqu'à l'aube et qu'on a articulé le chiffre de 100 000 francs, j'ai eu quasiment un problème moral en me disant, mais pour exprimer mes fantasmes à l'écran, est-ce que j'ai le droit de dépenser 100 000 francs ? Est-ce que... Il n'y a pas des choses plus importantes dans la vie. Bon, si on regarde le monde dans son ensemble, est-ce que ce n'est pas du luxe de dépenser 100 000 francs pour un film? Et puis, je me suis très vite rendu compte, en regardant les postes budgétés, que cet argent, en fait, sert à faire fonctionner toute une industrie. C'est-à-dire, ça sert à faire fonctionner les laboratoires, ça sert à donner du travail à des techniciens, à des comédiens, et que finalement, c'est une entreprise commerciale. J'avais peut-être un peu de peine à me mettre... C'était peut-être un peu la dualité, être, se considérer comme artiste et créateur, et tout d'un coup se retrouver dans le monde des affaires. Alors au début, je l'ai rejeté un peu, ce monde des affaires. Et par la suite, je me suis rendu compte que c'était une phase indispensable. On ne peut pas ne pas se confronter à ces problèmes d'argent. Donc je crois que l'attitude la plus cohérente, c'est de faire face à tout ça. Donc je suis entrée dans ce monde des finances, dans ce monde de la comptabilité, et je me suis dit que finalement, j'essaye de prendre les choses de façon positive, que ça avait un avantage, c'est-à-dire que quand l'enjeu financier est si important, ça oblige à être extrêmement cohérent avec soi-même, c'est-à-dire on ne peut pas faire n'importe quoi.
Et puis on ne peut pas se permettre de faux pas.
On ne peut pas se permettre de faux pas, donc ça signifie qu'on doit vraiment donner le meilleur de soi-même.
C'est une école de la rigueur, en fait, le cinéma, contrairement à ce qu'on croit.
Absolument, c'est quelque chose d'extrêmement précis, enfin ça... C'est un art extraordinaire parce qu'il réunit beaucoup de... Bon, tous les arts, que ce soit au niveau de la musique, de l'image. J'utilise aussi beaucoup la chorégraphie dans mes films. Tout à l'heure, je parlais du fait que j'aime bien filmer de la danse. Mais dans mes déplacements de comédien, j'utilise des rythmes et des mouvements qui s'assimilent assez à une chorégraphie. Mais une chorégraphie discrète, c'est pas donné comme un ballet du tout, mais... Ça, pour moi, disons, une certaine cohérence.
Pour en revenir aux histoires de fric, il serait peut-être intéressant de donner le détail concret de ce qui justifie des coûts de production aussi exorbitants. Alors, par exemple, si tu avais le devis de... Alors, on va donner des détails concrets du de production, du budget du voyage jusqu'à l'eau.
Oui, enfin ça c'est extrêmement simplifié en fait, mais voilà quelques rubriques. Préparation et scénario, 3800 francs. Préparation et scénario, ça veut dire se rendre sur les lieux où on va tourner, le travail de dactylographie, de photocopie du scénario, les envois pour demander de l'argent dans les différentes fondations. Évidemment, quand on fait des préparations de tournage avec le directeur de la photographie, l'électricien et l'assistant, ils touchent déjà un salaire avant même qu'on tourne. Donc ça faisait 3800 francs.
Non, on n'avait plus le salaire du scénariste. Il n'y a pas de salaire du scénariste. Déjà,
Là, en fait, non. Parce que bon, j'avais écrit le scénario moi-même, je n'avais aucune idée de ce que ça valait. Je ne l'ai pas budgété. Ouais. Bon, de toute manière, j'aurais
donc,
jamais...
Le salaire du scénariste, même si c'est tourne, même si tu cumules 3 ou 4 ans.
Oui, c'est ça, il existe. Par exemple, dans le film suivant, Image gelée, le scénario de long métrage, il est budgété 20 000 francs. Donc en fait, là, c'est très peu de choses, 3 800 francs pour le scénario. Et là, c'est surtout la préparation qui coûte cher, en fait. Ensuite, le salaire de l'équipe technique, il se monte à presque la moitié du budget du film, puisqu'il est de 43 000 francs. Le salaire des comédiens, c'était un film où il n'y avait que deux comédiens, mais très, très souvent présents à l'image. Salaire des comédiens, 10 000 francs. La location du matériel, c'était 6 000. Donc les caméras, enregistreurs, la lumière, etc. Le matériel brut, aux environs de 2 000 francs, on entend par matériel brut... les bandes magnétiques, la pellicule pour les caméras. Les décors et costumes étaient chiffrés presque 2000 francs. Là, je pense que c'est évident. Les repas et transports, 6000 francs. Bon, on fait aussi marcher l'industrie hôtelière et les restaurants. Le son, chiffré à 3000. Les laboratoires, 7000 francs. Assurance, 2000. Les charges sociales...
Les laboratoires, pour le moment ici, c'est pour le développement, le tirage...
Voilà, copie, c'est ça, le tirage des copies, développement de la pellicule, copie, etc.
Et les effets aussi.
Oui, s'il y a des effets spéciaux, le générique, etc. Les assurances, alors les assurances, ce sont aussi bien les assurances accidents pour l'équipe de tournage que l'assurance sur le film. Je crois qu'en l'occurrence, là, je ne me souviens plus très bien si on avait pris une assurance, je ne crois pas. Les charges sociales se montaient à 1500 francs, parce qu'on paye, donc... le producteur du film paye des, l'AVS si le technicien le désire et d'autres charges sociales. Il y a des régies et divers qui font 7000 francs. Ça recouvre beaucoup de choses, des déplacements, des préparations, etc. Et puis on compte des frais généraux pour le téléphone, le bureau, etc. de presque 5000 francs. Voilà, et avec tout ça, on arrive à 100000 francs.
Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire qui me dirait froidement tout ce que j'ai fait à toi. Je cherche un millionnaire pour avoir des trucs comme les stars, pour manger des homards. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard. C'est facile d'être chic quand on a beaucoup de fric. C'est commode d'épater quand on est argenté et qu'on n'a plus rien à compter. Je cherche un millionnaire car je sais que ces oiseaux rares veulent placer leurs dollars. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard. Près de moi sans façon, il me baise la main. Monsieur, écoutez-moi bien, moi je n'y vais pas par quatre chemins. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois.
Je suis ce millionnaire qui vous dit froidement tout ce que j'ai fait à toi. Je suis ce millionnaire.
Vous avez tout du gigolo,
mais j'ai gagné le gros lot.
Alors, cher millionnaire, je veux bien m'occuper de vos pélos. Joli garçon, vous me plaisez beaucoup. Asseyez-vous, plus près, encore plus près, là. Regardez-moi bien dans les yeux. Maintenant, embrassez-moi, plus fort, encore plus fort. Là, un baiser à la cannibale. Oh, ce gentil millionnaire a vraiment toutes les qualités qui peuvent me contenter. Avec ce millionnaire, je suis sûr qu'on ne doit pas s'embêter.
Mais au fait, Christiane Colla, qui ne mange pas des homards mais qui fait du cinéma, où est-ce qu'elle a trouvé ses millions pour faire ses films? Et est-ce qu'elle les a trouvés?
Et quand j'ai terminé Carcere, je me suis dit, voilà, cette fois, j'ai enfin atteint mon but. Et ce film-là, alors j'ai osé le montrer. Et puis il a remporté, je dois dire, un immense succès. C'est-à-dire qu'il a été primé au Festival d'Hier, qui est un festival international. Les critiques parisiens étaient là et j'ai eu d'excellentes critiques dans toutes les revues de cinéma parisiennes, ce qui était extrêmement important. En Suisse, j'ai été primée par la Confédération. Les critiques ont été également excellentes. Oui, c'était une prime d'études, c'est-à-dire c'est un cran en dessous, mais bon, c'est quand même une prime et ça m'a beaucoup aidée au niveau du dossier de presse. Alors disons que c'est seulement à ce moment-là que je me suis dit, bon, maintenant je peux me considérer dans un stade professionnel. Je peux arrêter d'investir mon propre argent dans les films. J'ose maintenant, je me sens le droit de demander des financements. Et pour le suivant, alors je me suis lancée dans la grande aventure du financement. Et en effet, c'était absolument colossal et très difficile. Et je crois que ma chance, ça a été en fait de débuter comme ça, très discrètement, sans une infrastructure compliquée. C'est vrai que si j'avais démarré un premier film avec les difficultés de productions que j'ai eues pour Voyage jusqu'à l'aube, d'abord, j'aurais pas fait autant de films, c'est sûr. Maintenant, je mets beaucoup plus de temps à faire des films parce qu'ils sont aussi plus compliqués techniquement, mais aussi parce que j'ai investi ces dernières années 50 000 francs de ma poche pour faire mes films. J'en ai récupéré un peu le tiers pour l'instant. Et je ne peux plus investir de ma poche, c'est sûr. Alors maintenant, je suis obligée de suivre la filière normale, c'est-à-dire écrire un scénario communicable, appréciable, chercher de l'argent. Et ça, c'est très lourd, c'est vrai.
J'aimerais bien que tu énonces les différentes étapes, justement, de la recherche de financement habituel, cette espèce de circuit initiatique obligé de tous voilà, les cinéastes.
C'est ça. Alors, c'est très classique. Le plus important, c'est évidemment de s'adresser à la Confédération, à Berne. On peut demander au maximum 50% du budget. Alors ça, c'est la grande instance. Ça oblige le cinéaste à avoir un scénario extrêmement bien écrit, ce qui est un paradoxe, parce qu'en fait, on va s'exprimer en images, et on est obligé de convertir ça en mots convaincants. Et, bon, c'était une étape qui, pour moi, était difficile au début. Surtout que j'ai peut-être un peu un style poétique à l'image, mais aussi à l'écriture. Alors, c'était peut-être pas toujours évident. Alors, donc, on dépose une demande à Berne. Il y a la télévision, qui est une deuxième instance importante, mais qui, en général, se contente d'un prêt achat, ce qui est pas énorme. Ça donne une participation financière assez restreinte.